I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas écouté, entendu, parler, mais on est de retour et si tout va bien, avec cette semaine, pas un, mais deux épisodes. Pourquoi ? Vous le saurez peut-être en cours d'émission, vous le comprendrez. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on parle essentiellement de films Marvel avec des supers, des lasers et des punchs, mais aussi parfois, on parle d'autres trucs, de trucs qui nous plaisent parce que c'est notre émission. Et quand je dis notre, je parle de moi et de mon ami Johan qui est là, fidèle au poste, comme à chaque fois qu'on enregistre. Bonjour Johan, comment ça va ?
Eh ben, ça va très bien, ça va très très bien.
T'as pas l'air d'être en forme là ? Un peu plus d'énergie. On va parler d'Ant-Man and the Wasp, Quantumania, là.
C'est ce film-là. attends, j'en prends ma voix. Mais bonjour, Patrick. Mais c'est incroyable. On va passer un super moment ensemble pour parler de ce film incroyable. Incroyable, d'ailleurs, à bien des égards.
ne spoilons pas trop notre avis, même si je crois qu'il a été quand même... Ça fait un peu consensus, l'avis sur ce film. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, c'est le troisième film de la série Ant-Man, toujours réalisé par Peyton Reed, et qui va un petit peu plus loin dans l'exploration de son univers à lui. À vrai dire, qui va même très très loin, puisqu'on se retrouve très très vite dans le royaume quantique, je ne sais pas comment dire en français, le Quantum Realm. C'est ça, le royaume quantique, avec toute une équipe, en fait, de Ant-Man et ses amis. On a bien sûr Ant-Man lui-même, Scott Lang, on a Hope Van Dyne, les deux parents de Hope, et la fille Cassie de Scott Lang. Je précise qu'on a aussi Cassie parce qu'évidemment, c'est l'un des héros de nouvelle génération de Marvel qui avait déjà été présenté, mais qui là devient un petit peu un super-héros puisqu'elle a aussi un costume de Ant-Man-like qui lui permet de devenir toute petite ou très grande et que dans les comics, elle devient Stature, donc l'une des héroïnes de nouvelle génération. Alors, peut-être... Comme toujours, une première partie sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Première partie sans spoiler, donc l'histoire, on vous la résume en deux secondes, ils vont dans le Quantum Realm qui est un truc un petit peu alien, incroyable, merveilleux. Et évidemment, il y a des trucs bizarres puisque la mère de Hope, qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà ? Janet Van Dyne, avait passé des dizaines d'années dans le Quantum Realm, mais il lui arrivait plein de choses, et elle a l'air d'avoir très peur de ce qu'il y a là-bas. Et évidemment, il se passe plein de trucs, et des choses effrayantes, c'est sur l'affiche, donc on peut le dire, dont une rencontre avec un des variants de Kang le Conquérant, qui est censé être le grand méchant de fin, un petit peu, de la phase 6, avec cette phase 5 qui commence, et il le mentionne, je peux en dire un petit peu plus. C'est un film sur lequel, qui était important au-delà du film lui-même, puisque c'est après une fin de phase 4 qui nous a plutôt plu, avec Wakanda Forever. La phase 4 en elle-même était... Mais la fin n'était pas trop mal, et on pouvait se dire, ok, bon, ça y est, ils reviennent sur les rails, c'est bon. Et donc, la phase 5, la manière dont elle commence, est importante. Il faut qu'ils réussissent ce premier film. Donc, assez parlé, Patrick. Johan, est-ce que ce lancement de phase 5 est pour toi, sans spoiler, est pour toi réussi ?
Clairement non. Avec tous les enjeux que tu as décrits, on n'est clairement pas au rendez-vous, malheureusement.
Et je pense que ça a secoué un petit peu, alors côté critique, de ce point de vue-là, hein, clairement, le film se prend vraiment, vraiment des critiques que moi je trouve parfois plus dures que nécessaires. Mais le fait est qu'effectivement, si on part de cette idée que ça y est, on lance la phase 4, on présente un nouveau méchant qui est censé hein, nous intéresser et nous intriguer pour les 6 ans à venir quasiment, c'est difficile quoi. C'est ouais. difficile. Pour autant, je peux pas m'empêcher de redire qu'il y a quand même plusieurs petites choses en fait, un peu au milieu du film, un peu planquées parfois là et là, que je trouve vraiment très sympathiques, que j'ai trouvé ça vraiment chouette parfois, mais globalement, on peut quasiment dire qu'il y a entre guillemets rien qui va. Quoi.
D'accord. Je commençais à me dire, mais attends, en fait, Johan a adoré le film. C'est son film préféré du MCU. Mais tu conclus.
Tu disais qu'il y avait un consensus. Et en fait, moi, c'est vraiment pas ce que j'observe. Côté critique, il y a clairement un consensus. Même côté critique, la bulle YouTuber, clickbaiter, MCU... qui sont toujours ultra fans, à chaque fois, c'est le meilleur MCU sorti depuis le film d'avant, tu sais, c'est le film qu'on n'a jamais vu depuis Thor 4, tu vois, vraiment. Et ben là, ils étaient vraiment tous déçus. Mais par contre, côté public général, ça a l'air d'aller. Moi, tous les gens avec qui je suis allé, donc je suis allé avec 5 copains, eux, ils ont aimé. Quand j'entends parler du film, en général, les gens ils disent oh, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Tu vois ce genre d'appréciation, tu sais pas forcément aiguisée, mais voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a un public. D'ailleurs, on le voit sur les sites de notes. Le film a une note correcte côté user, tu vois.
Je trouve ça intéressant, quoi. Les gens qui s'en foutent un peu du MCU, ils se disent ouais, bon c'est sympa, je passais un bon moment.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et les gens à qui sont un petit peu attachés au personnage et à l'univers, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plutôt comme toi, il n'y a rien qui va, quoi. Parce que, clairement, pour moi, il n'y a rien qui va. Mais rien. C'est toi, tu généreusement trouves quelques trucs au milieu du film qui sont des petits trucs un peu cachés qui sont marrants. Moi, j'étais... Au début, je me disais « Oh, pourquoi pas, ok, ça peut être sympa. » Mais plus le film avançait, plus j'avais la tête dans les mains et je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» Ça n'a aucune cohérence. Aucune cohérence, c'est peut-être un petit peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est écrit n'importe comment. Tu as des événements qui s'enchaînent dont aucun n'a aucune importance. Des personnages qui sont absolument pas développés. Une histoire dont les enjeux sont absolument... c'est pas qu'ils sont minimes, c'est que tu n'en sens pas l'importance. Ah oui, alors il y a tel personnage qui est très méchant. On en parlera plus dans la partie spoiler, mais... Voilà, rien n'a de poids, rien n'a d'importance. En fait, tu évoquais Thor 4 à l'instant. Je dirais que, pour moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et voilà ma conclusion. Il est quasiment aussi mauvais que Thor 4. Et si vous avez entendu notre épisode sur Thor 4, vous saurez qu'on ne l'a vraiment pas aimé. Et moi, en particulier, je ne l'ai pas aimé. Mais quasiment aussi mauvais que Thor 4. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment aussi mauvais que Thor 4 ? Je crois que c'est parce que la différence, en fait, c'est que dans Thor 4, le réalisateur, Taika Waititi, n'avait aucun respect pour les personnages et leur développement et leur histoire. Aucun respect. Donc, tout était traité à la légère, tout était une blague. Là, c'est pas que Peyton Reed n'a aucun respect, c'est que t'as l'impression qu'il s'en fout. C'est pas qu'il veut. Tu vois, dans Thor 4, tu pouvais imaginer les réunions de prod et d'écriture où Taika Waititi disait oh, ah ouais, non mais là, à un moment, on pourrait dire que Thor, il est à poil. Ah ouais, ça serait trop fort, Thor, il est à poil. Attends, c'est trop marrant. Et pareil avec Jane, dont l'arc dans les comics, on en avait parlé, et est vraiment un arc intéressant, lourd, qui peut être traité avec beaucoup de d'intérêt, de développement pour développer le personnage. Là, il disait ouais, bon, ok, alors attends, là, on va dire que il est amoureux de son marteau, et donc Jane, il s'en fout, donc ça va faire des situations marrantes où il va être à côté du marteau, il va regarder le marteau qui est plutôt vers Jane. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça que c'est traité dans Thor. Là, dans Quantumania, t'as l'impression que Peyton Reed, il fait, on lui dit, enfin, on lui a toujours reproché d'être un yes man dans l'écurie de Marvel. Mmh. Et dans les deux précédents, je trouve que c'était pas trop gênant parce qu'il y avait, c'était un truc classique peut-être ce qu'il savait faire et donc bon, il suivait les rails et ça allait. Là, il est encore une fois, alors c'est pas lui qui a écrit. On lui a donné, c'est Jeff Loveless qui a écrit le film, et donc on lui a donné le scénario, et il a fait « Ah, ok, bon, alors, bon, on va faire ça. » Et là, vous dites qu'il faut faire quoi ? Ok, ok, bon, bah, on va faire comme ça, voilà. Et c'est... Ça n'a, du coup, aucune saveur, aucune personnalité. On suit le truc sans être impliqué du début à la fin, et ça tombe à plat. Complètement, et sans spoiler, je vais juste ajouter un truc, c'est normalement Jeff Loveless qui écrit Avengers The Kang Dynasty, donc qui est le premier, après il y a Secret Wars, donc c'est normalement c'est lui qui écrit le premier des deux, et après avoir vu celui-là, je suis terrifié de Kang Dynasty. J'espère que je sais pas, Kevin Feige va reprendre les rênes et commencer à secouer tout ça, parce que si c'est sur ça que part la phase, j'allais dire la saison 5, la phase 5, et que partent la phase 5 et la phase 6, bon, je suis très très inquiet, quoi.
Voilà. Il y a un truc, en fait, dans les deux premiers Ant-Man, hein, que, alors, je sais que les avis sont assez divisés déjà sur les deux premiers Ant-Man. Il y en a qui aiment assez bien, voire beaucoup, et d'autres qui déjà, en fait, les Ant-Man 1 et 2, ouais, ils aimaient déjà pas. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait trouver de chouette dans ces deux premiers Ant-Man, c'est qu'il y avait vraiment un côté ludique sur les pouvoirs d'Ant-Man. Mmh. Il y avait vraiment tout un jeu de quand il est minuscule dans des endroits, voilà, les chambres d'enfants avec les jouets, etc. Ou quand il agrandissait des objets, voilà, c'était très sympa, rigolo, ce genre de scène d'action avec ces éléments-là. Et là, clairement, il y a rien de tout ça, et on se retrouve plongé dans cet univers entièrement CGI. Tu vois, qui a du mal à rendre correctement à l'écran, parce que bon, ça, c'est un problème un petit peu de fond chez Marvel, c'est que la partie effets spéciaux, plus ça va et moins on sent qu'ils ont du temps pour travailler ça correctement.
Ils ont utilisé la technique de Mandalorian, qui rendait très bien dans Mandalorian, mais vous savez, avec cet écran, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, elle a un nom, Infinity, quelque chose, je ne sais plus, où c'est en fait un écran derrière qui affiche en direct les images plutôt que de faire un écran vert, un fond vert. Et ça peut marcher si c'est bien fait, mais dans Ant-Man, tu sens les CGI sans saveur, enfin les images de synthèse sans saveur, qui est déjà un reproche qu'on fait à Marvel. Puissance 12, quoi. C'est c'est pas un vomi d'images de synthèse non plus. C'est pas, je sais pas moi, ce qu'on pouvait voir dans Aquaman, par exemple, où quand on était dans l'eau, c'était flou tellement c'était mal foutu. Mais Oui, ça endort tellement c'est plein de couleurs, ouais, qui n'ont aucun sens, quoi.
Et puis, bah, tu parlais des enjeux. Ça, c'est un autre point pour moi. Il y a un peu crispant. C'est ils ont absolument voulu raccrocher les wagons avec la saga Ant-Man, en ramenant, voilà, un personnage du premier. Et c'est une catastrophe.
On en parlera en partie spoiler.
Donc voilà, donc juste pour rester dans la partie spoiler et parler un peu des choses que j'aimais bien, je trouve quand même que globalement, l'univers, cet univers du Quantum Realm, moi je le trouve quand même assez attrayant, côté, on va dire, direction artistique. Alors, c'est pas toujours bien présenté, c'est pas toujours bien amené, bien écrit, mais moi cet univers j'ai trouvé vraiment très très chouette, avec les différents personnages qu'on y croise, voilà, cet aspect visuel, les différentes sociétés. Oui, non, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue artistique, c'est, tous ces éléments-là, ils sont là, et je les trouve assez réjouissants, en fait. J'ai passé vraiment un bon moment à observer ces choses-là, mais voilà, ce qui plombe tout ça, ça va être l'écriture du film, en fait, c'est, je pense que tu as bien décrit le truc, c'est que on a l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Le début du film est très long, et regarder ta montre, etc., mais t'as pas vraiment, voilà, t'as rien dans l'écriture qui vient te mettre les choses en valeur ou qui te donne l'impression que les gens qui ont écrit ça étaient passionnés par ce matériel-là, quoi.
Ouais. Bon, on peut peut-être passer à la partie spoiler, du coup, puisque on a fait un petit peu le tour, je crois, de ce qu'on pouvait dire. On a clairement pas aimé, moi, c'est pas le pire film du MCU, mais enfin... Il est vraiment, vraiment pas loin du fond, quoi. Il nage avec, juste au-dessus de Thor 4, mais sans doute avec Thor 2, et, enfin, en dessous de Thor 2, même. Bon, bref. Quand on aura un peu de recul, on pourra mieux juger, mais... donc, maintenant, spoiler, attention, arrêtez de... Je sais pas pourquoi vous voudriez aller voir le film après avoir entendu ça. D'une manière générale, je pars du principe que les gens qui nous écoutent ont déjà vu les... Enfin, en immense majorité, ont déjà vu les trucs dont on parle. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on est un petit peu moins expansif sur la partie non-spoiler ou qu'on explique moins. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à la partie spoilers. Et donc, vous devez maintenant partir parce que c'est les spoilers maintenant. Spoilers, 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 spoilers. Par où tu veux commencer ? On va pas y passer la nuit, hein. On va enchaîner sur un épisode de The Last of Us très très vite, parce que voilà. Mais ouais, par où tu veux commencer ?
Ouais, on pourrait commencer par Cassie, qui est nouveau personnage, et on suppose qu'elle sera mise en avant ailleurs. Je sais pas.
On
commence à avoir une classe de 30 élèves là jeune enfant MCU là. On a de quoi. On commence à avoir pas mal de gamins. Et du coup, c'est une de plus. Alors, c'est terrible. Hein. J'ai l'impression que... Alors, ça fait combien de temps qu'ils ne nous ont pas présenté un nouveau héros correctement, en fait ?
Ouais.
Parce que, tu vois, pour moi, ça avait déjà commencé avec Spider-Man. Spider-Man, j'avais trouvé sa présentation dans l'univers catastrophique. Je sais que c'est pas...
Oui, moi ça m'avait pas gêné, mais Spider-Man, c'est tellement un personnage qu'on connaît déjà qu'on pouvait le comprendre, et que le fait qu'il nous refasse pas une xième fois et Oncle Ben et machin, et je me fais piquer par une araignée, bon, c'est complètement compréhensible. Là où ça a vraiment commencé à me gêner, c'était avec WandaVision, où Photon a été introduit en un demi-épisode en faisant « Oh, elle est passée à travers la barrière, mais c'est fou. Ok, t'es un super-héros maintenant. Ouais, très bien, ok. On est loin de Iron Man et Captain America, tu vois. » Mais
J'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie, de faire des... Comme ça, quoi.
Ouais.
Ils n'ont plus envie de faire des origin story fouillées, et à chaque fois, c'est expédié, quoi. Et là, c'est terrible. Là, genre, même son père... En fait, ça, c'est un truc... Du coup, Ant-Man, donc Scott Lang, il a raté, on va dire, toute la vie d'enfant de sa fille. Il regrette amèrement, il veut passer plus de temps avec elle. Mais tu te rends compte que même maintenant, en fait, il passe pas du tout de temps avec elle, et il sait pas qui c'est sa fille, quoi. Ouais. Sa fille, dans son dos, elle est en fait aussi intelligente que Stark. Elle invente des trucs qui permettent de voyager dans le Quantum Realm, et elle se fabrique un costume.
Non, on lui a filé un costume. Et elle a fabriqué un truc qui permet de communiquer avec le Quantum Realm. C'est...
Ouais, d'accord.
mais je suis d'accord. Ah, bah bon. Mais tu sais, même ça, ce que tu décris, ça pourrait être intéressant. Un petit peu plus dramatique que le ton de Ant-Man auquel on est habitué, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais même ça, on s'en fout. Et elle, ah, t'as un costume, ah, ok, bon, vas-y, cours, fais attention, hein, quand même. Bon, à la limite, c'est pas le truc qui m'a le plus gêné dans le film, hein, mais effectivement, je peux pas te donner tort là-dessus.
Non, mais c'est difficile après de s'attacher, on va dire, à son évolution, en fait, puisque du coup le point de départ est tellement bâclé que, ouais, en fait, l'idée derrière l'écriture, c'est effectivement, bon, voilà, elle est préoccupée par les luttes sociales de la vraie vie.
Ouais, alors,
elle fait des manifs, elle embête les policiers, ok. Et puis du coup, bah, après, tu as le parallèle avec bah, la résistance dans le monde quantique. Enfin, tu vois, tu comprends l'idée, quoi.
Ouais.
Et du coup, il y a peut-être quelque chose, effectivement, à fouiller de ce côté-là. Mais en fait, c'est déjà mal présenté de base. Et ensuite, bah, clairement, il manque des scènes pour faire avancer son personnage. Et du coup, il ne se passe pas grand-chose.
C'est tellement
et je pense que tout le monde va l'oublier. Tout le monde l'a oublié en sortant de la salle, quoi. C'est dommage.
On parlait de l'univers du Quantum Realm. Moi, j'ai été vraiment déçu, en fait. Tu dis que tu as été séduit par les visuels. C'est vrai que disons qu'on a l'impression d'être dans un truc, dans une nouvelle planète des Gardiens de la Galaxie, pas forcément super inspiré. Tu vois, c'est cette impression, alors qu'on pouvait espérer que le royaume quantique, ça serait un truc différent, ou ça serait des trucs qui joueraient justement avec l'aspect microscopique, tu vois, microscope électronique, ce genre de truc. D'ailleurs, bon, je vais pas faire mon well actually, mais ça va toujours gêner l'histoire de Ant-Man qui passe dans le royaume quantique entre les atomes, mais lui, c'est toute sa matière qui est réduite. Bon, bref, c'est on s'en fout. Mais au moins qu'on joue un minimum avec ça. Là, il n'y avait rien. C'était juste une planète. Et encore une fois, avec tous les personnages, genre la rébellion, là, avec l'homme laser, la nana énervée, machin, ils doivent avoir quoi 2 minutes 42 à l'écran. Donc, t'as aucun intérêt pour eux. Cette rébellion, elle est bizarre. Alors, les maisons qui bougent, ok, c'est un visuel intéressant.
Mais... J'ai trouvé ça vraiment incroyable, ces maisons.
Ouais,
ces bâtiments. Alors, je sais pas si ça existe ailleurs, j'avais jamais vu ça. Et je trouvais que du coup c'est présenté un peu comme une blague, hein. Mais du coup, ces personnages-là, donc ces bâtiments, on continue à les voir jusqu'à la fin, et en arrière-plan, etc. Et moi, je trouvais l'idée vraiment incroyable. Je me dis, mais en fait, il fallait peut-être mettre ça un peu plus au centre, les mettre dans l'équipe, je sais pas, leur faire faire des choses un peu plus, tu vois, un peu plus intéressantes. Mais je trouvais le concept génial. Ouais. J'ai adoré un peu toute l'équipe de résistants. Là. Tu parles de l'homme laser, là. Visuellement, je trouve que c'était génial. L'espèce de blob qui est là comme un comic relief avec son histoire de trou. Bon, ok, mais je trouvais ça quand même globalement chouette. Quoi. Toute l'équipe, je la trouve assez chouette. Mais ils ne servent à rien. Quoi. Je pense qu'ils ont été écrits quasiment que comme des comic relief, quasiment tous, avec le mec qui lit dans les pensées, avec la blague habituelle des mecs qui lisent dans les pensées. C'est la blague que tu as vue un milliard de fois, quoi. Et donc, tu vois, pour moi, il y avait tous ces gens-là qui sont faits avec amour, quoi. Je veux dire, ils sont trop cool. Et ils sont absolument pas exploités. On a l'impression que Reed a préféré passer du temps sur MODOK, qui, ça, je pense, plutôt.
Parlons-en de MODOK. Est-ce que c'est la pire chose qui soit arrivée au MCU, de l'histoire du MCU?
Ouais, c'est dur, hein.
Je pense qu'on peut dire que c'est le pire truc. Parce que, d'une part, le personnage de MODOK est hyper casse-gueule. C'est sans doute le truc de comics le plus débile et le plus ridicule qui soit. Alors, quand tu veux le mettre dans un film, t'as vraiment intérêt à le faire avec énormément de tact, de doigté, d'habileté, quoi. Parce que c'est forcément ridicule. Et par le passé, ils ont réussi à intégrer des choses ridicules à leur film, justement en faisant en sorte que ça passe. Mais alors, MODOK, c'est vraiment le comment dire.
Tu sais, ce personnage de MODOK dans les comics, il me fait penser à Zola, en fait.
Ouais.
Zola, qui est une espèce de tête finalement sur des robots, sur des dans des trucs et tout ça. Et dans les comics, il y a un côté un peu kitsch aussi, un peu comme MODOK en fait, dans les visuels des comics. Sauf que du coup, ça a été adapté à une époque du MCU qui se voulait un peu réaliste, justement mettre de côté ce côté un petit peu kitsch des comics. Et MODOK, bah, il est adapté dans une phase où on essaye de faire du comics accurate, donc un truc très proche des comics, etc. Et ben, ça rend vraiment pas bien du tout. Quoi.
Non, mais c'est plus que malaisant, c'est vomissant à ce niveau. Quoi. T'es tellement mal pour le film et le réalisateur et l'équipe qui doit interagir avec ce truc que vraiment, moi, par moment, je me disais, mais je me mettais la main devant les yeux, mais arrêtez-vous, c'est pas possible. Tu vois ça au montage ? Comment tu te dis pas, bon, ok, on va changer là. C'est juste, ça peut pas. Et j'irais même jusqu'à dire, tu es Kevin Feige, tu vois les rushs ou tu vois les premières versions, si tu mets pas un veto là-dessus, je sais pas ce que tu fais dans ton boulot, quoi. Ça discrédite le film, la série et ton univers. Moi, clairement, ça m'a atterré, quoi.
Et encore, on pourrait se dire, ok, le visuel, c'est peut-être subjectif. Ouais, peut-être qu'il y a peut-être des gens qui ont bien aimé, finalement, la matérialisation de MODOK.
Qu'il a été réduit de façon bizarre et qu'il a une grosse tête et des petits bras, à la limite tu peux faire passer ça, à la limite, ok, pourquoi pas, ça a une explication, ok, mais ouais.
Mais du coup, pour moi le plus gros problème de ce MODOK là, c'est d'en avoir, enfin, il est écrit comme quelqu'un d'un peu stupide, finalement, un peu, tu sais, un petit peu gaffeur ou je sais pas trop. Alors que c'est censé être, du coup, la création du grand Kang, c'est censé être sa machine à tuer, et donc, du coup, super efficace, et tout ça, mais on a l'impression qu'il est un peu nul, quoi. Et du coup, tu comprends pas pourquoi est-ce que Kang lui fait confiance ou l'utilise de cette façon-là. Il a l'air dangereux parce que les gens disent qu'il est dangereux. Mais attention, c'est le truc le plus dangereux de Kang, tu vois, mais ils ne font que le dire parce que. Quand tu vois ce qu'il fait, si tu ne fais que regarder ce qu'il fait, il fait que se faire rabaisser ou être ridicule
sur un truc comme ça. Tu mets, je lance un truc au hasard, mais tu mets quand ils arrivent, quand ils repèrent le camp des rebelles, tu envoies MODOK à la limite seul pour tous les détruire, et tu en fais une sorte de Captain Marvel. Quand il arrive, tout le monde regarde en l'air, et tu dis « Oh merde, mon Dieu, ça y est, on est foutu », et il détruit tout. Et tu vois, c'est une sorte de torrent de lasers et de missiles, et il désintègre tout sur son passage, et tu dis « Bon, ok, là, tu comprends qu'il y a un truc. Mais sous cette forme... » Et puis, alors le personnage était déjà sans doute l'un des pires personnages du MCU à la base, comment il s'appelait, Darren Truc, là. Mais là... Non seulement MODOK est ridicule en tant que personnage de comique, mais en plus, lui, il est débile dans ses interactions avec les autres. Et à la fin, le coup de Cassie qui lui dit « Ah, je sais pas, don't be a dick !» Et il fait « je dois pas être... » Et donc, mais... Et même ça, tu vois, il y aurait eu, en étant généreux, il y aurait eu un truc à faire. Il y aurait eu un truc où tu te dis, ce mec, il a toujours été clairement hyper frustré. Il a essayé de prouver sa valeur, tu sens une sorte de frustration presque sexuelle dans la manière dont il essaye de montrer qu'il est le plus fort, machin. Et il a vécu toute sa vie comme ça. Il se retrouve en une sorte de personnage difforme dans le Quantum Realm. Il a survécu et il ne peut exister que par ses lasers et ses bombes. Et tu peux sentir, tu peux faire ressortir le désespoir psychologique, tu vois, la détresse d'un mec comme ça qui, à un moment, se dit « Mais je suis coincé dans ce que je suis et je ne peux pas en sortir. » Et tu peux avoir... t'as pas besoin de beaucoup, mais t'as 2 minutes de dialogue avec Cassie qui lui dit « Non, mais... » Enfin, qui peut parler d'un truc qu'elle ressent elle aussi, qui lui dit « Mais non, on peut toujours se dépasser, on peut toujours, tu vois, moi j'ai vécu sans père et j'ai été prisonnier par mon désespoir pendant tellement longtemps et puis machin, et puis... » Tu peux en faire quelque chose, tu peux. L'idée d'évolution psychologique de ce mec qui a été rabaissé et qui a jamais rien réussi toute sa vie malgré ses beaux costumes et ses trucs, tu peux. Sauf que là, c'est « Oh, ah ouais, don't be a dick ? Ok. » Ah, je suis plus un dick, ok, machin. Et tout le film est comme ça. Pardon, je m'emporte.
Tu t'énerves.
Non, mais c'est frustrant, tu sais, parce
ouais,
que...
Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais...
Et puis Kang, il est... Enfin, il n'y a rien... Enfin, j'exagère. Kang, tu disais, il y a des trucs bien dans le film. Je trouve que Jonathan Majors, il fait, avec ce qu'on lui donne, un travail incroyable. Quand il est à l'écran, il a quoi, 2 minutes et demie de monologue à l'écran. Là, je rentre dans le truc et je suis convaincu par son personnage.
Ouais.
Mais...
Oui, il y a un truc qui me gêne avec Kang, avec ce Kang-là. C'est que du coup, et ça c'est un truc qui naît aussi de la frustration des retours que j'ai entendus, c'est que souvent, moi j'entends ce qui sauve le film, enfin si le film peut être sauvé, on va dire, c'est Kang qui est génial, mieux que Thanos, etc. Ouais. Moi je trouve pas ça mieux que Thanos, quoi. Finalement, ce Kang-là, c'est vraiment le rire machiavélique, je suis trop méchant, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on ait compris en fait. Pourquoi il est comme ça, tu vois, pourquoi est-ce qu'il veut absolument dominer le multivers, enfin, on a encore le temps, hein, pour présenter ce personnage-là. Moi, je suis assez convaincu que ce Kang-là, spécifiquement, n'est pas mort dans le film. Je pense qu'il a shrink encore plus petit dans un autre truc ailleurs, etc. Je pense qu'il y a encore le temps pour mieux le présenter. C'est pas, je pense pas qu'on soit encore dans un point de non-retour pour faire un bon méchant. Mais effectivement, je trouve que dans ce film-là, hormis effectivement, il y a des moments d'acting qui sont très très cool avec Jonathan Majors, mais plutôt justement quand il n'est pas sous son costume, ou dès qu'il passe sous son costume, c'est juste « je suis le méchant
!» Non, c'est-à-dire que le personnage, je crois, n'est pas bon, mais c'est juste que Majors, lui, est un bon acteur. Et donc, il réussit à en tirer quelque chose. Mais je suis d'accord, le personnage n'est pas bon. Je ne suis pas très à l'aise avec les comparaisons avec Thanos, parce que Thanos, jusqu'à Infinity War, tu le vois 4 secondes. Et vraiment, les gens s'en souviennent parce qu'il y a son ombre qui plane, et ça, c'est bien fait, hein, sur une bonne partie des phases précédentes. Et encore, tu en entends parler dans une ou deux. Ce qui est intéressant dans Thanos, c'est que c'est pas le personnage que tu vois, mais tout son plan, par l'intermédiaire des pierres de l'infini, qui du coup, quand tu comprends tout ça, t'as l'impression qu'il était là tout le temps. Mais en fait, il était pas là du tout, quoi. Il est là une demi-seconde. Et donc, le personnage est présenté vraiment dans Infinity Wars. Et c'est juste que ces tentacules avec les pierres de l'infini, tu les ressens quand même. Mais... donc là, oui, on a complètement le temps d'avoir un Kang qui ressemble à quelque chose. Je suis d'accord que, à la limite, c'était même pas la peine. Si c'était pour en faire ça, c'était pas la peine de le présenter dans Ant-Man Quantumania, quoi. T'aurais pu. Il y avait mille choses à faire, mais tu vires ce personnage, à la limite, si tu veux être radical. Tu fais de ce pauvre Bill Murray qui est là, mais pour. Mais quel intérêt de. Là encore, c'était un truc où je me suis mis la main devant les yeux. Quel intérêt d'avoir Bill Murray là-dessus, quoi.
Non, ce caméo est... Mais après, j'ai l'impression que Bill Murray, il ne fait plus que ça, hein, dans tous ses films.
Oui, mais bon... Peut-être, mais il n'empêche pas que sur ce film-là, ça n'a... Enfin, c'est... Comment dire, c'est pire que le collector dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, on est... Enfin bon... Et donc, mais à la limite, tu vires Kang, tu fais de Bill Murray un grand méchant qui a en plus une relation avec Janet, et tu fais le combat avec la rébellion. Ok, ça lie pas à Kang et à la dynastie de Kang, mais c'est pas grave.
Et encore, tu peux faire en sorte que justement Janet a peur de revenir à cause de Kang, et quand ils arrivent, il s'est déjà barré, quoi.
Il y a tout
le spectre de Kang qui est là, et du coup, tu repars du film en disant ah merde, il était prisonnier là, il s'est libéré, tu vois. Enfin, il y avait moyen de faire planer la menace sans le mettre au centre comme ça, et finalement. Le ridiculiser un petit peu.
Et bon, disons que je comprends le fait que Kang, tu vois, on sent que, et je suis assez... j'achète ton histoire de « il n'est pas vraiment mort » parce que tu sens qu'en fait, il faisait ce qui était nécessaire pour combattre le conseil des Kang, qui sont en fait, eux, les vrais méchants. Et donc, bon, il s'en fout parce que... Et là encore, c'est frustrant parce que tu peux en faire quelque chose. Il s'en fout de tous ces mondes qu'il visite. Il veut sauver le multivers contre le conseil des Kang. Et donc, tous ces mondes-là qu'il visite, c'est des détails, quoi. C'est comme des fourmis quand t'es en train de marcher dans la forêt pour aller sauver ta ville, tu vois. Donc, on peut comprendre que machin... Mais en fait, t'es quand même le gentil et les fourmis, ça va, arrêtez de m'emmerder. Et là, c'est pas du tout ça. Et bref, tout ça pour dire, je peux imaginer qu'il est pas mort et qu'il va revenir et qu'il va être un Kang gentil. Mais du coup, puisqu'on parle de Kang, on peut parler de la première scène post-générique qui, pour moi, autant tu vois, j'ai passé le film à me dire, ah, oh, Jonathan Majors, quand même, il est bien.
Ah, c'est horrible. Hein.
Et là, mais qu'est-ce que c'est que ça, putain.
Mais... avec tous les... Alors, ils ont voulu refaire une scène, parce que j'ai vu la case du comics derrière, tu as dû la voir aussi, mais il y a une case apparemment connue du Conseil des Kang où il y a exactement le même plan. Donc, du coup, tu vois tout le stade avec tous les Kang différents qui sont dedans, etc. Mais là, en image et avec les avec Kang qui fait le « wouh », le « yeah », etc. Ouais. En plein d'exemplaires, c'était vraiment ridicule. Et les trois Kang principaux, les protagonistes de cette séquence post-générique,
Kang Pharaon,
eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils sont au Comic-Con, là, déguisés
Pharaon. T'as l'impression que c'est une fête d'anniversaire d'enfants de 6 ans qui sont chacun déguisés en leur Kang préféré, quoi. Et vraiment, tu pointes du doigt un truc à plusieurs reprises dans notre discussion. Le fait d'être comics accurate, c'est clairement une erreur. À chaque fois, enfin, dans les trois premières phases, ils essayaient de l'être un petit peu moins et d'adapter. Et là, on est complètement passé dans autre chose. On est passé dans une retranscription assez exacte de ce qu'il y a dans les comics. Et à chaque fois, ça tombe à plat. On en a eu beaucoup d'exemples. Et là, ça en est encore un, ce Conseil des Kang. Enfin, là encore, on se met la main devant les yeux, quoi.
Ouais. Par contre, la séquence post-générique suivante, je l'ai trouvée très cool pour le coup, mais du coup, c'est la présentation de Loki. Alors, moi, ça m'a redonné envie de voir la suite de Loki là.
Alors, moi, je le regarderai, je vais pas dire le contraire, mais.
Attends,
mais je dirais pas que ça m'a hyper donné envie non plus. Quoi.
Moi, ça m'a même donné envie de revoir Loki, tu vois.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Moi, je n'irai pas jusque-là. Bon, est-ce que...
je voulais juste faire un petit crochet sur Hank et Janet.
Oui, c'est ce que j'ai dit, pas du tout parlé.
Ouais, il y a plein de soucis, puis en plus, c'est souvent lié à Bill Murray, parce que la séquence de Bill Murray qui n'est là que pour faire des blagues de cul, mais du coup, pour évoquer le passé de Janet. Mais je trouve qu'ils ont tous les deux des scènes assez cool en fait, assez badass. Je voulais juste le noter. Je m'attendais à rien du tout de ce point de vue-là. Je pensais qu'ils allaient être un peu passifs tout le film. Mais je trouve qu'ils ont réussi quand même à
quand il met ses mains dans
Janet. Janet est quand même très active. Hein, tu sens qu'elle sait se battre. Il y a plusieurs séquences où elle se montre plutôt capable, et puis t'as la fameuse scène de Hank qui débarque avec ses fourmis qui, on sait pas pourquoi, elles sont arrivées plus tôt dans le temps et ont le temps de développer toute une société technologique, etc. Mais j'ai trouvé l'idée,
sur ce
on va
point,
dire...
Je vais encore te faire un well actually, c'est genre où il dit « Ah, elles sont tombées dans une poche temporelle, elles ont passé 1000 ans !» Et tu sais, c'est genre, mais 1000 ans... Alors donc, les fourmis... En 1000 ans, tu vois, il y a 1000 ans, je pense que les fourmis, elles étaient à peu près pareilles que maintenant, hein, plus ou moins à peu de choses près. Tu comptes 1000 ans avant
avec
encore.
Avec la radiation du monde quantique.
Ah, voilà. Peut-être, ok, c'est les radiations du monde quantique, pardon.
Tu sais, ce genre de truc, et ça, j'y ai pensé pendant le film, hein, donc c'est de mauvais signe en général quand tu penses à autre chose pendant le film, mais pour moi, c'est le rat de Endgame, quoi. C'est le rat, il est venu, il a appuyé sur le bouton, voilà, il a sorti Ant-Man de son truc.
Ouais.
C'est ce genre de justification là où t'as pas trop d'idées.
T'as 1000 millions d'univers et puis il y en a un où il met et ça marche. Mais
voilà.
Si tu veux, je suis d'accord avec toi. C'est le genre de truc que tu peux accepter s'il y en a un dans le film.
Oui, exactement.
Tu vois,
c'est ça. Là, il y a que ça.
Ouais.
Bon, voilà. Je pense qu'on peut, on va pouvoir refermer Ant-Man et espérer. Alors moi, j'ai assez peu d'espoir. Hein.
Je vais être généreux. Il y a un truc que j'ai trouvé bien, et je pense que les auditeurs se disent ah mais ils vont parler de ça quand même, non ? Il y a un truc que j'ai trouvé bien au milieu d'une scène qui était débile et ratée. C'était le moment où tous les Ant-Man se marchent dessus. Comme des fourmis pour essayer d'atteindre la montagne de fourmis là. Là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant visuellement et thématiquement, parce que Ant-Man, qui est l'homme fourmi, qui tout à coup se comporte avec ses doubles comme des fourmis pour faire, pour atteindre le truc, j'ai trouvé que c'était beau, ça. Tu vois, que ça fonctionnait. Mais même le truc de tous les Ant-Man du monde, du multivers, j'ai trouvé que c'était mal exploité. Mais juste cette image-là, c'était plutôt cool. Voilà, j'ai réussi à trouver un truc cool dans le film. Ah. Bon, on s'arrête là. On arrête de taper sur ce pauvre Ant-Man qui est déjà à terre. On continue à lui mettre des coups de pied.
Le prochain rendez-vous, c'est Gardien de la Galaxie 3. Et j'ai peur qu'on reste dans de la blague peu inconséquente.
Hyper peur. Hyper peur. Hein. C'est le film, le prochain rendez-vous, ou est-ce qu'il y a une série entre-temps qui commence?
Non, je crois que c'est le film. D'accord. Il n'y a pas de date pour d'autres séries pour le moment, mais celui-là, c'est en mai. Donc...
Si j'avais pensé un jour que j'aurais peur des films Marvel qui arrivent... Bon, écoute, on verra. Ça se trouve, ça sera super bien. Allez, soyons positifs. Espérons que ça sera bien et que ça sera au niveau de l'excellence incroyable du premier Gardien de la Galaxie. On verra. Merci, Johan. Où on peut te retrouver sur Internet?
Eh ben, on peut me retrouver soit sur Twitter, soit sur le Discord de French Spin, de ton Discord, où on parle beaucoup de plein de choses, que ce soit de jeux vidéo, de Marvel, même si en ce moment on casse du sucre un petit peu sur le MCU, mais aussi de The Last of Us et d'autres choses, quoi.
Très bien. Donc le Discord, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Et sur Twitter, pour ma part, c'est Twitter aussi, un petit peu partout, les autres émissions, le rendez-vous tech, où on parle d'actu tech, le rendez-vous jeu, où on parle d'actu gaming et tout ça. Et on se retrouve très, très vite pour essayer de faire... tu vois, on a bu notre médicament et on va très, très vite, dans un ou deux jours, revenir avec un bon petit hamburger avec des... Non, c'est même plus. C'est, je sais pas, un plat de sushi délicat, tu vois. Pour parler des épisodes 4, 5 et 6 de The Last of Us. Donc, n'ayez crainte, la mauvaise pilule Ant-Man passera très très vite. On vous fait des bises et on se retrouve dans, allez, deux jours. Quelque chose comme ça.
Allez. Bah, à dans deux jours, Patrick.
À dans deux jours.